une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, nous allons revivre 7 jours d'événements sur la planète grâce au reportage de la rédaction. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du samedi matin, ce 29 avril. Je vous rappelle que vous pouvez aussi suivre ce magazine sur l'application RFI gratuite et la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, nous sommes en compagnie de John Bowen, un anthropologue américain qui enseigne à l'université Washington à Saint-Louis. Bonjour John Bowen.
Bonjour, enchanté d'être parmi vous.
Merci d'être à ce micro. Vous venez d'écrire un livre au titre percutant chez Albin Michel, « L'islam, un ennemi idéal ». C'est oui, le titre en français, c'est presque provocateur.
Carrément provocateur. C'était l'idée.
Ouais.
Provocateur dans le sens où je veux que les gens réfléchissent bien sur des idées fixes et souvent fausses sur ce que c'est l'islam et que ce que sont les musulmans.
Oui. Nous allons en reparler évidemment dans un instant tout au long de ce rendez-vous, John Bowen. Mais commençons d'abord, comme il est de coutume dans cette émission, notre voyage avec quelques reportages, voyage autour du monde bien sûr. Et écoutez le président américain justement, Barack Obama, parler de la Russie aujourd'hui sur fond de crise en Crimée. C'était aux Pays-Bas en marge d'un sommet sur le désarmement nucléaire.
Russia is a regional power.
La Russie est une puissance régionale qui menace quelques-uns de ses voisins immédiats. Elle ne fait pas preuve de force, mais de faiblesse. Depuis des décennies, depuis la fin de l'Union soviétique, la Russie a une influence considérable sur l'Ukraine. Nous avons, nous aussi, une certaine influence sur nos voisins, mais nous ne les envahissons pas avec l'objectif d'avoir une influence plus grande encore. Le comportement de la Russie constitue un problème, mais ce n'est pas la menace la plus importante qui pèse sur les États-Unis. Je m'inquiète plus pour notre sécurité en pensant qu'une bombe atomique pourrait exploser à Manhattan. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les États-Unis sont à l'avant-garde d'un mouvement international qui a contribué à réduire cette menace nucléaire d'une manière constante.
Sur l'ambiance aujourd'hui à Kiev, en Ukraine, alors que la Crimée est donc russe désormais, John Bowen, écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Muriel Pomponne, mardi.
Jusqu'où vont aller les Russes? Que veut Poutine? L'inquiétude est palpable ici à Kiev. La mobilisation a donc commencé depuis environ une semaine. Sur les boulevards, de grandes affiches bleues et jaunes, avec le trident, symbole de l'Ukraine, interpellent le passant. « Ami, as-tu répondu à l'appel de la garde nationale ?» suit le numéro de téléphone à composer pour entrer en contact avec le ministère de la Défense. Les jeunes gens sont fortement incités à répondre à cet appel et à participer aux journées de formation. Sur l'avenue Kreschiatique, toujours fermée par des barricades, des affiches plus informelles, celles-là, invitent aussi les passants à participer au groupe d'autodéfense. L'affiche, peinte à la main, représente un manifestant avec un casque improvisé et un bouclier fait d'une planche de bois. Sur le Maïdan, on croise encore de nombreuses personnes en treillis, des paramilitaires. Certains contrôlent l'entrée de bâtiments comme la mairie ou certains hôtels. Mais dès qu'on s'éloigne du Maïdan, Kiev a repris son activité habituelle. Avec en même temps, chez beaucoup d'Ukrainiens, cette inquiétude du lendemain. Ce sentiment que l'Europe est absente et que la Russie, hier amie, s'est transformée en ennemi imprévisible.
Sept jours dans le monde.
John Bowen, avant de vous écouter, de parler de l'islam, de l'islamisme, mais aussi partons cette fois au Liban pour évoquer la guerre en Syrie. Alors que les forces syriennes gagnent du terrain, on le sait, avec un portrait de deux rebelles syriens du front islamique. Reportage de Laure Stéphan à Ersal, qui est une ville libanaise à la frontière syrienne.
C'est dans une maison à l'écart d'Ersal, petite ville sunnite de la Bekaa qui soutient la rébellion syrienne, que se repose Abou Abdo, combattant du front islamique. Il est arrivé pendant la nuit de Syrie.
Je fais des allers-retours dans le Kalamoun où la bataille est acharnée. J'amène de la nourriture aux combattants et je reviens avec des blessés, tout cela la nuit. C'est devenu plus difficile car l'armée libanaise a installé des points de contrôle autour d'Ersal ces derniers jours et on doit les contourner car on risque de se faire arrêter.
Selon une source sécuritaire libanaise, de nombreux combattants syriens, dont des djihadistes, sont retranchés dans la montagne entre Ersal Israël et la Syrie depuis la chute de Yabroud il y a 10 jours, d'où le déploiement de l'armée libanaise dont les forces restent limitées. Abou Brahim, jeune combattant du front islamique, s'inquiète pour sa part des raids de Damas à la frontière avec le Liban.
Pour l'opposition syrienne, Ersal est vital pour toute la logistique dans le Kalamoum. Sans la ville, on ne pourra pas regarnir le front en Syrie. On ne peut pas se replier ailleurs. Aujourd'hui, les montagnes libanaises sont bombardées par l'armée syrienne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on mourra ou bien on s'en sortira et on regagnera notre pays.
Abou Brahim jure ne pas vouloir participer à une action armée au Liban où il a installé sa famille. Mais les mouvements de combattants et les raids à la frontière suscitent une inquiétude croissante pour la stabilité de la Béka.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de John Bowen qui vient d'écrire chez Albin Michel « L'islam, un ennemi idéal ». Le contexte géopolitique, John Bowen, nourrit cet anti-islamisme. Ouais, il y a confusion entre l'islam, les islamistes, les djihadistes, d'évidence.
Oui, complètement, en commençant avec les nouvelles, les mauvaises nouvelles que vous venez de citer.
Ça, c'est ma spécialité en quelque
Exactement,
sorte.
Exactement, c'est le risque du métier. On met toujours l'accent sur ce qui est négatif. Et on parle toujours des islamistes. Même le mot islamiste cache toute une variété de positions. On met trop souvent dans le même sac les djihadistes, l'Anada en Tunisie, par exemple, et les gens qui veulent tout simplement faire un dawa ou prédication auprès d'autres musulmans. Ils sont tous labellisés islamistes. Et ça produit des dégâts.
Alors vous écrivez dans ce livre, John Bowen, de tout temps dans l'histoire occidentale, certains groupes ont fait l'objet de haine profonde, les juifs, les catholiques, les protestants, les africains, les slaves, les roms, les homosexuels, et ainsi de suite, malheureusement. Aujourd'hui, les principales cibles de cette haine sont les musulmans.
Oui, parce que après la guerre froide, aujourd'hui, on n'est pas sûr que d'être vraiment dans une période après la guerre froide.
Ah, il y a des relents de guerre froide.
Voilà, exactement.
Hein. Vous écoutiez Barack Obama avec attention tout exactement, à l'heure, votre président, vous allez dire.
Oui, voilà. C'est comme si on a toujours besoin d'un ennemi principal, quelqu'un par rapport à qui on peut se différencier et se mettre dans une position d'être du bon côté. Et si c'est l'islam aujourd'hui, c'est parce que ça est venu. Il y avait une sorte de conjoncture, d'une part, de la chute de la mur de Berlin, plusieurs mois, la fin de l'Union soviétique en 91, et puis l'arrivée de l'islam dite politique avec Imam Khomeini en Algérie, la montée, etc., etc.
Donc ce n'était vraiment pas la fin de l'histoire. Hein?
Non, exact. Oui. Donc c'était le bon moment où ils étaient en train de chercher un nouveau ennemi. Alors l'islam se présentait comme peut-être un ennemi en France, pour des raisons qui ont beaucoup à voir avec l'histoire de la France et de l'Algérie. Pour les Américains, à cause de l'imam Khomeini et sa prise des otages. Mais voilà, donc depuis lors, l'islam est continué à être représenté quelque chose de dangereux.
Et en lisant votre livre, John Bowen, je rappelle que vous êtes professeur d'université à Saint-Louis, l'université à Washington, on s'aperçoit que l'islam est rejeté par une partie de la population américaine.
Oui, parce que
quand je dis population, c'est aussi les autorités.
Oui, parce que c'est un des grands inconnus. Là, il y a des différences quand même entre les États-Unis et la France, bien sûr. La population immigrée qui sont musulmans aux États-Unis ont un niveau économique au-dessus du moyen. Tandis qu'ici en France, évidemment, c'est l'inverse. Donc ça donne comme résultat le fait que si on connaît des musulmans, des vrais musulmans, on a beaucoup moins de problèmes avec l'islam. C'est trop souvent dans l'ignorance qu'on considère comme les musulmans sont un bloc, font un bloc, qui pensent toujours les mêmes choses, c'est-à-dire instaurer la charia, et donc on va avoir peur de cette... de ce bloc-là. Ça c'est normal.
Ouais. Est-ce qu'il y a l'équivalent de mouvement d'extrême droite qui rejette spécifiquement l'islam?
Non, il y a un mouvement qui rejette spécifiquement l'islam, mais ça se trouve plutôt dans plusieurs églises protestantes et évangéliques. Évidemment, il y a une grande différence. Pour eux, c'est plutôt une lutte ou un combat interreligieux, qu'ils mènent aussi avec l'Église catholique, d'ailleurs, avec d'autres protestants qui ne sont pas de la même persuasion qu'eux. Mais en l'occurrence, c'est l'islam qui devient cible. Tandis qu'en France, évidemment, ce n'est pas ça.
Alors, on parlera de l'actualité française dans la deuxième partie de l'émission, mais on peut déjà se poser la question, John Bowen. Est-ce qu'à chaque fois que vous arrivez à Paris, ce qui est le cas en ce moment, vous sentez un rejet grandissant de l'islam?
Oui, alors en ce moment, c'est un peu spécial parce qu'on est entre les deux municipales, donc... Tout tourne autour des choses qui se situent au niveau local. Alors que là, même là, on trouve même dans les reportages, dans plusieurs quotidiens hebdomadaires, des problèmes qui sont liés à l'arrivée des nouveaux résidents dans telle ou telle ville, hein, qui sont identifiés comme étant des musulmans. Alors, ça identifie les gens qui font un problème, qui créent un problème, les déplacements avec l'islam comme, encore une fois, supposé un fond, une source de ce qui trouble la population de longue date dans ces villes. Donc, ça, évidemment, ça aide le Front National.
Une semaine d'actualité.
Et merci de votre fidélité. La Corée du Nord, John Bowen, a tiré aux premières heures de la journée de mercredi deux missiles balistiques de moyenne portée en direction cette fois de la mer du Japon. Les missiles ont parcouru environ 650 km avant de s'abîmer en mer. Correspondance de Séoul signée Frédéric Ojardias.
C'est la première fois depuis 5 ans que la Corée du Nord tire ses missiles de type Nodong, deux lancements qui viennent conclure une série de plusieurs dizaines de tirs de roquettes à courte portée effectués par le régime ces dernières semaines. Les deux Nodong sont une réponse aux déclarations contre le programme nucléaire nord-coréen prononcées lors du sommet nucléaire de La Haye. Quelques heures seulement avant le lancement, lors d'une rencontre entre États-Unis, Corée du Sud et Japon, le président américain Barack Obama affirmait « La coordination entre nos trois pays a réussi à changer la donne avec la Corée du Nord ». Le régime de Kim Jong-un lui répond ainsi qu'il ne se laisse pas intimider et que les sanctions internationales ne fonctionnent pas. Pyongyang exige de discuter avec les États-Unis, mais ceux-ci refusent tant que le régime ne fera pas des gestes concrets pour montrer son intention de renoncer au nucléaire. La situation est donc bloquée et Washington a décidé de jouer la carte de la patience stratégique. Avec ses tirs de missiles, le régime vient rappeler que l'attente n'est peut-être pas la meilleure des stratégies.
Et reparlons de la Syrie avant de vous retrouver, John Bowen, pour souligner un fait. Les rebelles ne sont pas soutenus par les pays arabes, en tout cas pas par la Ligue arabe, on l'a constaté encore cette semaine, Sami Boukhalifa.
Mardi, ouverture du 25e sommet arabe dominé par le conflit en Syrie. Ahmed Jarba prend la parole. Le président de la coalition nationale syrienne, principale branche de l'opposition, implore les dirigeants arabes. « Faites pression sur la communauté internationale », dit-il. « Il faut impérativement nous fournir des armes sophistiquées pour combattre Bachar al-Assad ». 24 heures de réflexion, de débat, les responsables arabes rendent leur décision ce mercredi. Un communiqué final est rédigé, il est lu en séance de clôture. Nous appelons à une solution politique en Syrie sur la base de la conférence de Genève 1 tenue en juin 2012. Dans le détail, cela signifie instaurer un pouvoir de transition en Syrie et parvenir à une entente nationale. Plus facile à dire qu'à faire, toutes ces décisions théoriques n'ont pratiquement aucune chance d'aboutir. Comme à chaque sommet sur la Syrie tenu durant ces deux dernières années, la coalition nationale syrienne repart comme elle est arrivée, les mains vides. Riyad, seule capitale à soutenir l'option armée, n'a pas réussi à convaincre les autres pays arabes.
À retenir aussi la condamnation lundi de 529 frères musulmans à la peine de mort en Égypte et une confirmation, hélas. Le vol MH370 de la Malaysian Airlines s'est bien abîmé en mer avec à son bord 329 personnes. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de John Bowen, il y a une grande différence, et vous la soulignez, elle est au cœur de votre livre, « L'islam, un ennemi idéal », c'est que de part et d'autre de l'Atlantique, les musulmans ne vivent pas dans le même type de société, multiculturalisme de l'autre, communautarisme diront certains, alors qu'en France, en Europe singulièrement, en Europe en général et en France singulièrement, c'est pas du tout le cas.
Oui, il faut bien distinguer entre les termes employés dans une rhétorique politisée.
Les mots sont importants, hein. Communautarisme.
Multiculturalisme. Prenons l'exemple d'Angela Merkel qui a parlé de cette politique multiculturelle qui a échoué complètement à l'Allemagne. Il n'y en avait jamais une politique multiculturelle. L'Allemagne était toujours prête à ne pas reconnaître comme citoyen, comme potentiel citoyen, les Turcs ou les enfants, les petits-enfants des Turcs. Mais il y a certainement ces rhétoriques, mais en même temps, il y a des situations qui sont vraiment différentes entre, par exemple, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. En Grande-Bretagne, par exemple, ce qu'on peut dénommer comme une sorte de multiculturalisme, c'est pas une politique de l'État, c'est plutôt le fait que là il y a une tradition que les églises pourraient devenir en même temps la source des valeurs et aussi les structures, les dispositifs pour l'éducation des enfants. Alors c'était pas l'État, c'était plutôt a priori aux églises. Alors, via les musulmans, pourquoi pas aussi pour les musulmans puissent avoir leurs propres écoles aidées par l'État, mais qui sont limitées aux musulmans. Alors, c'est une chose qui est impensable en France, mais aussi aux États-Unis.
On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs.
Ouais, voilà.
Ouais. Mais enfin, le modèle est très différent. Vous savez très bien, et vous connaissez parfaitement bien la France, John Bowen, que le mot-clé ici, et on en reparlera d'ailleurs dans le magazine Idée dimanche prochain, pas demain, mais l'autre, c'est laïcité.
Ouais, bien sûr. Laïcité, c'est quelque chose qui est souvent mal connu. Par exemple, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État n'utilise jamais nulle part le mot laïcité. C'est plutôt une question de faire expulser les églises du domaine de l'État. Tandis que maintenant, c'est utilisé comme si il y avait une interdiction générale et philosophique en France à la présence dans l'espace public des signes religieux, qui n'est pas du tout dans la loi. Donc, si on essaie d'expliquer et comprendre la laïcité, il faut comprendre les mouvements idéologiques et politiques pour constamment, d'abord, taper sur les musulmans, aussi faire pression sur l'Église et aussi sur les synagogues.
Est-ce qu'un des deux modèles intégrerait ou intègre mieux les musulmans aux États-Unis ou en France?
Bah, c'est laïcité différent. Ce n'est jamais question que du modèle. Parce que, juste pour prendre la comparaison, parce que vous avez cité les États-Unis, ce qui compte, c'est surtout et d'abord les différences démographiques. Alors, aux États-Unis, vous avez les musulmans qui sont des immigrés pour une part et les indigènes, des Afro-Américains de l'autre. Mais pour parler des immigrés, ils sont bien aisés par rapport aux autres Américains. Donc, il n'y a pas la même sorte de dédaigne de la part d'autres Américains pour les musulmans. Il n'y a aussi pas d'équivalent de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a laissé des cicatrices en France, qui compte pour beaucoup, surtout par le rapport pieds noirs, islam et Front National dans le Midi, par exemple. Là, il n'y a pas d'équivalent.
Et il y a aussi un modèle ou un contre-modèle, c'est selon, entre les États-Unis et la France, c'est la Grande-Bretagne.
Exactement. Alors, pour parler de l'intégration, est-ce que l'intégration réussit mieux aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France? On ne peut pas le dire, parce que les horizons d'attente sont complètement différentes.
Oui.
Ici, l'intégration, c'est effacer les particularités dans l'espace public. En Grande-Bretagne, c'est pas ça. Et aux États-Unis, la question n'a aucun sens.
Aucun sens.
Aucun sens, parce qu'il n'y a pas un espace public. Tellement c'est décentralisé, tellement la population de base ou de souche, si vous voulez, porte des identifications hybrides, italo-américains, irlandais-américains, etc. D'avoir des musulmans américains, c'est normal et naturel.
Et est-ce que la notion de laïcité, selon vous, à la française, est un exemple à suivre, est une bonne idée ou pas?
Alors, si on peut décomplexer un peu la situation, si on n'utilise plus le mot laïcité, mais l'idée d'une sorte de la liberté de la religion, d'une part, et de la neutralité de l'État, de l'autre, c'est exactement les deux volets de ce qui est là dans la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire, l'État ne peut pas favoriser une religion sur une autre, et l'État garantit aussi la libre expression de la religion. Ce sont les deux bases aussi dans les États-Unis qu'en France. Donc, pourquoi pas? Et en Grande-Bretagne aussi, on a à peu près l'équivalent.
Mais enfin, ce qui frappe, et on va conclure avec ça cette première partie, John Bowen, d'une semaine d'actualité, c'est que les événements, la géopolitique mondiale, placent l'islam aussi, de fait, à la une de l'actualité,
oui,
des préoccupations.
Place l'islam et place les musulmans. Alors ça, c'est aussi le travail du média à en faire qui est une question de l'islam. Mais les gens qui vont perturber la vie des autres un peu partout dans le monde avec le jihad, etc., ce n'est pas le résultat, le reflet de l'islam. C'est le reflet de certains processus d'indoctrination auxquels peut-être on va revenir. Hein. Donc il faut comprendre cela et pas faire l'amalgame entre les jihadistes et 99% des musulmans qui cherchent à mener une vie quotidienne comme les autres.
Bien entendu. John Bowen, nous allons marquer une pause pour écouter quelques informations. On va sans doute parler de la Syrie, par exemple. Et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.